la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
C'est la dernière émission sur Bécher, comme nous l'avions dit la dernière fois. Et cette fois-ci, nous n'allons pas entendre du Bécher, mais nous allons entendre du selon Bécher, l'évangile selon Saint Bécher. parce que, en fait, on va se pencher sur ce que Bécher a laissé chez lui, derrière lui. Et en fait, il a surtout laissé derrière lui des influences et des gens en France. Et là, on vient d'entendre, par exemple, un des innombrables hommages à Sidney Bécher, qui ont été faits par-ci, par-là. Alors, celui-là a été fait par Maxime Sory, le fameux clarinettiste.
Oui,
qui lui était
très connu.
Disciple de Bécher, d'ailleurs.
C'était
Barney Bigard.
C'est ça.
Et par Paul Chéron, au saxophone soprano, mais pas la carotte dont servait Bécher, un modèle de saxo soprano recourbé.
Ah bon ?
Oui, ça existe. T'as un tout petit saxo recourbé, comme il ressemble à un saxo alto, mais en tout petit. C'est assez marrant, on se dirait un jouet d'enfant quand on le voit faire.
Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le même son. Hein.
Non, ça n'a pas le même
son. Ça n'a pas la même sonorité.
C'est quand même un hommage qui est fait par deux musiciens. L'orchestre s'appelle Banana Jazz, c'est le petit orchestre de Paul Chéron, avec à l'époque Philippe Renaud au trombone en particulier, qu'on entendait. Et cet orchestre, avec Sory, a enregistré un hommage à Sidney Bécher, en reprenant non pas son style, mais son répertoire. On verra à la fin de l'émission qu'on a pu aussi reprendre et le répertoire et le style, mais ça, c'est une autre affaire. Pour l'instant, on va se pencher sur d'autres choses, parce que il y a des hommages, mais n'y a pas que des hommages.
Et alors ça, c'était 30 ans après.
Oui, à peu près. Voilà. 30 ans après la mort de Béchet, soudain, ça les gratouille, ils font un hommage. Mais les musiciens de jazz français, pour eux, Béchet est aussi une contrainte.
Ah bon ?
Et oui, parce que Béchet a laissé derrière lui des morceaux immortels, qui s'appellent « Petites fleurs et les oignons », qui sont une sorte de point de passage obligé, bien souvent. C'est un peu agaçant quand on pense aux milliers de beaux morceaux de jazz, plus intéressants que « Petites fleurs », qu'on pourrait jouer, et que le seul truc qui était mémorisé par le grand public, c'est « Petites fleurs ». Ça agace les jazzmen.
Oui, mais ça, c'est un phénomène extrêmement courant. Dès que quelqu'un a eu un succès immense, Dalida disait qu'elle en avait marre de chanter Bambino.
Ouais, voilà.
Ben, je crois que pour les musiciens de jazz, Petite Fleur, voilà. C'est un peu ça. Les gens veulent l'entendre.
Voilà, et tout orchestre se doit de savoir jouer Petite Fleur, parce que quand il va faire danser les gens, quelqu'un va le demander. Alors un jour, dans un orchestre assez étonnant des années 70 qui s'appelait Sharkey & Co, un orchestre formé d'une douzaine de grands caractériels et qui se disait en état de dissolution permanente. C'était un orchestre follement sympathique, je veux dire.
C'est ça, mais qui existait toujours tout en ayant l'impression qu'il allait exploser d'un moment à l'autre.
Exactement, mais il a quand même duré pas mal de temps. Le temps de faire 5 micro-sillons quand même à l'époque.
Oui, quand même. Ouais. Donc...
Et en plus, il a ressuscité de ses cendres sous un autre nom, le petit jazz de M. Morel, puisque Sharkey est en réalité Jean-Pierre Morel au cornet, qui a refait carrière dans les années 2000. Quoi, hein.
Pourquoi est-ce qu'il s'appelait Sharkey ?
Ah, ça, c'est une idée qui lui est revenue comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, j'en ai aucune idée. Mmh. Et alors, dans cet orchestre, il y avait... un jour, ils ont été pris à la fin d'une séance d'enregistrement. Ils ont été pris d'une pulsion ravageuse. Ils ont décidé de détruire Petite Fleur.
Ah bon ?
Non, mais sérieux, ils ont détruit.
Donc, ils ont enregistré Petite Fleur saccagée.
Destructif. Et à l'époque, Daniel Luc, qui faisait partie de l'orchestre, était vendeur à la FNAC, à côté de là où nous habitions, à Paris. Et j'allais très souvent le voir au rayon de jazz, dont il était le responsable. Et il me dit, on a enregistré Petite Fleur. Je lui dis, ah bon, vous avez enregistré Petite Fleur ? Vous ? Là, j'étais vraiment épaté. Oui, mais alors on a enregistré Petite Fleur, je peux te dire, à notre façon. Alors je lui ai dit, mais alors qu'est-ce qu'il en reste ? Il m'a répondu, rien. Voici Petite Fleur, ravagée et détruite par Sharkey & Co.
Monsieur Jean-Pierre Morel et moi-même allons vous interpréter Petite Fleur.
Non, en pleine lumière, je veux qu'on voit le forfait dans toute sa splendeur.
Si on est qui veulent aller prendre un pot, moi je peux jouer.
Un psychodrame musical, Petite Fleur par Sharkey & Co.
Tu commences, chef, ou je commence ?
Ah, je vais commencer pour.
La série, chanson d'hier, attention,
c'est des chefs.
Je vous présente pour une version inédite de Petite Fleur. En anglais, Small Flower.
Thank you.
Quel déchaînement.
Là, ils ont passé leur nerf quand même, hein, ça se sent un peu.
Alors, ça, c'est quand même une des choses que j'aime beaucoup dans le jazz, c'est qu'on a quand même toute liberté. On peut être iconoclaste.
Oui, là, on a été sérieux.
Mais quand même, quand j'y pense, cette mise en boîte, hein, parce que c'est exactement ça, de Petite Fleur, je me demande si ça ne rappelle pas les petits garçons de 5 ans qui, quand ils regardent les filles, ils disent « les filles, elles sont nulles », parce qu'en réalité, elles les impressionnent beaucoup. Je me pose la question quand même.
Il n'y a que ça. Y a que ça. En tout cas, je dois dire, cette tentative totalement réussie et aboutie me semble d'une autre portée dans l'aboutissement, etc., que des choses, je ne sais pas moi, des manifestations artistiques qu'on peut voir quelquefois l'été, par-ci, par-là, du type habiller les troncs d'arbres ou mettre des échelles de corde coupées en deux ou choses comme ça.
Oui.
Ça a un intérêt.
Ça a de l'humour. Ça a de l'humour.
Exactement. C'est quand même pas mal. Alors, à côté de... Alors là, Charquet, c'est quand même un orchestre qui jouait toutes les semaines au Caveau de la Montagne. C'est un orchestre qui avait un répertoire. C'était un des meilleurs orchestres de son époque. Hein. On y viendra plus tard, sur cet orchestre-là, d'ailleurs. Et à côté de ça, Béchier a suscité des vocations chez les modestes.
Ah oui. Voilà. Alors là, les modestes, au fond, c'est des gens dont on ne connaît pas, qui ne sont souvent pas des professionnels.
Non, dont jamais on, des professionnels.
Oui, jamais des professionnels, dont on connaît les noms que dans un milieu relativement restreint.
Oui, c'est vrai.
Mais des fous, des amoureux de Béchette, finalement.
Ah oui, absolument. Alors, justement...
Enfin, de la musique de Béchette.
Ou d'Armstrong, ou de qui on voudra. Oui. Ce sont des gens qui, comme... dit très joliment quelqu'un à propos de rugby, démontre qu'on peut emporter le morceau sur l'envie plus que sur la technique. Et je me rappelle, celui qu'on va entendre, il s'appelle Claude Massimi, je me rappelle l'avoir vu monter sur une scène pour faire le bœuf dans un festival, avec un orchestre qui avait emmerdé tout le monde, et au moment où il a joué la première note, on a commencé à entendre de la musique, et les gens,
ah oui.
Et pourtant les autres étaient de grands professionnels.
Oui.
Voilà, bon, c'est comme ça, hein, l'envie.
Oui. Oui.
Et un niveau technique honorable tout de même. Alors, on va parler un peu de Claude Massimi, d'abord parce qu'il a son histoire est en partie cantalienne, puisque Claude Massimi était le membre éloigné d'un orchestre du Cantal, qui s'appelait Phonolite, que j'avais l'honneur et l'avantage.
Ah, mais Phonolite, c'est la pierre sonore.
Tout à fait, avec laquelle on fait des toits.
Voilà.
Et on a appelé cet orchestre Phonolite, on l'a fondé avec Bruno Bonté, le pianiste Denis Véniche d'Aurillac, Georges Mégalos de Saint-Flour, qui est aussi connu, et on avait des membres éloignés qui viennent nous prêter main forte, qui étaient Claude Massimi, qui était de Darles, René Sarnet, qui était de Marseille, et le trombone aussi, André Froment, qui était de Nîmes. Alors oui, ils montaient, puis nous on allait chez eux, enfin c'était tout à fait sympa, on faisait beaucoup de route, mais enfin bon. Et ça vaut le coup d'entendre Claude Massimi, parce que Claude Massimi, son alpha et son oméga, c'est Sidney Bechet. Le Sidney Bechet, dans le style qu'il pratiquait avant de venir en France, c'est-à-dire dans les années 40, si tu veux.
Voilà. Avant de venir en France, c'est-à-dire son style américain.
Voilà, il a beaucoup changé son style quand il est venu en France.
Oui.
Là, Bechet, c'est la référence de Massimi, qui joue très simplement, c'est ça. Alors, il a repris des chevaux de bataille de Bechet. On va entendre enregistrer dans le micro-sillon que nous a laissé Phonolite, orchestre qui a duré à peu près une douzaine d'années à partir de 78. Il nous a fait un jour un summertime. Alors voilà le summertime de Claude Massimi.
Et c'est enregistré où ça ?
À la Huchette. Thank you. Alors voilà, tu vois, il est totalement imbibé de Béchet, il est sans aucun effort mental, hein, il est comme ça.
Ça lui est naturel.
Il est habité. Ça lui est totalement naturel.
Le style de Jean-Michel Demange qu'on va entendre là, alors là, celui-là, c'est un autre style, c'est-à-dire c'est le style du Béchet France,
alors ça, c'est
si on peut dire.
Voilà, ben ça, c'est aussi une soirée à la Huchette, parce qu'on est resté à peu près 10 jours entre la Huchette et le Slow Club cette année-là. Et cette soirée-là, on a eu un buffer fort intéressant, qui s'appelle Jean-Michel Demange. Alors Jean-Michel Demange, lui, il joue également du soprano, donc on va avoir 2 sopranos, et on les a laissés se tirer la bourre tous les deux ensemble, on ne s'est pas trompette, trombone, on s'est retiré du truc, et ils sont partis sur un autre cheval de bataille de Béchet qui s'appelle China Boy.
Alors c'est très passionnant, parce que donc on a eu cette chance d'avoir les deux styles de Béchet en même temps.
Parce que Demange, il pratique le style de Béchet français. C'est-à-dire quand Béchet vient en France, il joue d'une manière plus lyrique, plus convenant à un grand public. Son style d'Amérique est plus jazz, je dirais.
C'est ça.
Voilà. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, à partir du moment où Béchet est en France, il ne vaut plus rien. Ça, c'est beaucoup s'avancer. Mais alors là, c'est très marrant parce qu'on les distingue très bien. Le son de Massimi est plus mat et ses phrases sont plus simples. Et l'autre, il a un vibrato beaucoup plus marqué, il cuivre un peu, enfin, et il joue à tour de rôle. Et même, ils vont jouer des passages en 4 mesures chacun.
Ce qu'on appelle des 4x4, qui ne sont pas des voitures.
Alors évidemment, ça s'est un peu emballé, parce que c'était sur un tempo non négligeable. Et voici China Boy, la Huchette, Noël 84.
Thank you.
Voilà, hop. Hein, c'était bien envoyé quand même. Alors on l'entendait, on va parler quand même, Denis Véniche d'Aurillac au piano, Georges Mégalos de Saint-Flour à la guitare. On l'entend jouer, on les entend tous les deux jouer en solo, un chorus de piano et de guitare. Et puis René Sarnet était à la batterie, donc notre ami de là-bas. Et puis les deux saxo-sopranos, c'était donc Claude Massini et Jean-Michel Domange qui étaient venus buffer.
Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Huchette, c'était quand même une cave très emblématique du jazz.
Tout le monde connaît la Huchette, hein. Enfin, je veux dire. Tu dis, on va à la Huchette. Ah non, je crois que c'est un mot qui a traversé le temps comme petite fleur, la Huchette.
Oui, oui. Oui,
oui, je pense. Hein, c'est quasiment un lieu commun. Alors, à force de la force, Phonolite, qui était un orchestre bien géré, parce qu'il faut dire une chose, il y a beaucoup de gens qui sont inspirés de Béchet. Luther, évidemment, on l'a entendu, Révéliotti, tous ces gens-là. Mais après la mort de Béchet, beaucoup de musiciens amateurs se sont inspirés de Béchet.
Oui.
Mais eux, ils n'ont jamais eu le souci de laisser quelque chose derrière eux. On s'en souvient parce qu'on les a entendus en direct. Ils n'ont pas été faire de disques ni rien. Ça, c'est des orchestres mal gérés. Il n'en reste rien. Voilà. Moi, je pense qu'un orchestre bien géré, il en reste quelque chose. Et Phonolite, il en reste un micro-sillon. Puis quelques cassettes. Moi, je trouve ça très bien comme ça. Et à propos de cassettes, comme Phonolite a fini par se retrouver au Festival de la Chaise Dieu, ce qui n'est pas rien.
Au Festival de la Chaise Dieu.
Absolument.
Alors, c'est quand même fou parce que, si je comprends bien, le jazz a fait une petite incursion à la Chaise Dieu.
Tout à fait. À cette époque-là, la Chaise Dieu avait un jour de relâche au milieu de deux semaines de musique classique. Et un organisateur éclairé, un jour, me téléphone en me disant...
Ce serait intéressant.
Ah oui. Et il m'a dit, vous avez carte blanche. Alors je suis venu voir où on pouvait jouer. Alors on s'est mis dans une grande pelouse qui se trouve derrière l'abbaye, qui était un peu en pente. On a eu 1000 personnes en face le soir du concert. On a mis un podium en bas de la pelouse. On avait des éclairagistes et une sono qu'on connaissait qui était en tournée et qui s'est arrêtée par là. Et on a fait un concert du tonnerre avec un débutant qui est maintenant le bassiste de Claude Bolling, attitré, qui s'appelle Pierre Mingour, qui était à l'époque un débutant à la contrebasse. Voilà. Et puis avec Bruno Bonté, qui entre-temps s'était mis à la batterie. Toujours Denis Véniche au piano. Et là, on a laissé Claude Massimi nous jouer un de ses morceaux favoris, qui est de Sidney Bechet, qui s'appelle Georgia Cabin. Et la version de Massimi sur Georgia Cabin ce soir-là, on s'en souvient encore.
Alors donc ça, c'est enregistré à la Chaise Dieu, alors?
Alors ça, c'est enregistré à la Chaise Dieu, en direct.
En 87.
Par l'équipe de sono. Alors, l'enregistrement n'est pas transcendant. Hein, mais enfin, quand même,
oui,
il est supportable.
C'est quand même pas un studio.
Non, non, voilà ce que ça donne.
Thank you.
et c'est un morceau qui n'est pas facile du tout.
C'est très beau, avec un très joli tempo.
Il a magnifiquement su gérer les passages délicats. Donc, belle improvisation sur ce, sur ce morceau. Alors, on s'en souvient encore tous, d'autant plus que cet été 87, on s'est aperçu qu'il avait, un problème de santé. Ça se,
il était très fatigué.
On s'en est rendu compte. Non, mais il avait un côté sieste.
Souvent.
Ouais, et puis on voyait qu'il dormait bizarrement. Enfin, il y a eu un malaise, et puis deux mois après, il nous a appris qu'il avait un cancer au poumon.
Allah.
Parce que c'était un grand fumeur, Massimi.
Oui.
Et on lui a enlevé un poumon en octobre 87. Mais en juillet 88, il était au Festival de Montauban. Il a rejoué, il ne voulait pas s'arrêter. Et comme on avait fait venir Michael White, le grand clarinettiste de la Nouvelle-Orléans, avec son batteur et son banjoïste à ce festival, j'ai appelé Massimi et je lui ai dit, parce que lui, il était allé en Louisiane, il connaissait Michael White, personnellement.
Ah oui.
Je lui ai dit que je comptais lui faire jouer deux morceaux avec Michael White. Il m'a répondu, ah, je peux mourir maintenant.
Ah bah, oh là là. Et alors ça, c'était à Montauban, ça?
C'était à Montauban. Alors il a préparé son truc parce qu'ils se sont mis d'accord sur les morceaux. Et ce jour-là, sur la scène du Festival de Montauban, Michael White a présenté Claude Massimi. Et ils ont joué un morceau de là-bas. Alors tout le public connaissait l'histoire, en plus. Alors,
c'est
très émouvant. Il y a des gens qui pleuraient, c'était absolument fou.
Ah bon?
Ah oui, c'était magnifique.
Oui.
Et ben, ça a donné ceci. Et Michael White donc, présente son ami...
Claude Massimi.
Claude Massimi. Et il joue Alger Strut, qui est un morceau de là-bas. Voilà.
Maintenant, j'ai un ami français qui joue, qui aime la musique de la Nouvelle-Orléans, et il va jouer avec nous. Maintenant, une chanson de Thomas Valentine. Une chanson de Thomas Valentine, Alger Strut.
c'était quand même... ça n'a pas été rien, ce passage-là. Après, ils ont joué Kansas City Man Blues, un autre cheval de bataille de Sidney Bechet. Ça a été une très belle soirée. Alors là, il y avait un pianiste français, qu'on peut encore entendre si on veut d'ailleurs, parce qu'il est... Et il a beau être radiologue, il n'en fait pas moins beaucoup de piano. C'était Louis Mastier. Louis Mastier, c'est un des meilleurs pianistes français, le meilleur en stride, pratiquement, super pianiste. On n'a pas besoin de contrebassiste avec un pianiste comme ça. Le banjoïste, c'était Danny Barker, qui est un personnage historique de l'histoire du jazz. C'était le guitariste de Cab Calloway dans les années 30. Enfin, il a une histoire absolument extraordinaire, Danny Barker. Et le batteur était un batteur de Nouvelle-Orléans qui s'appelait Ernest Ely. Voilà. Et puis Michael White, donc, et Claude Massie.
Alors là, c'était quand même plus ou moins à part Claude Massimi, c'était des professionnels.
Louis Mastier, non, et Claude Massimi, qui était chirurgien-dentiste, pas davantage.
Ah oui, d'accord.
Les deux trois autres, ils étaient professionnels en Louisiane, mais Michael White est professeur à l'université. Professeur de français, d'espagnol et de musique.
Ah oui, donc il était pas. il était amateur.
Il était amateur. Un semi-pro. Et alors Ernest Ely, en revanche, et Danny Barker était retraité de la musique et Ernest Ely aussi.
Mais ce qui frappe dans ce qu'on va entendre, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'amateurs de très bon niveau.
Ah ben, je suis bien de cet avis. Et d'ailleurs, Claude Massimi, après ce festival de Montauban 88, m'a demandé de monter un orchestre qui fasse plus du Nouvelle-Orléans que phonolite et avec lequel on ne soit pas emmerdé par les buffers. Il y avait beaucoup de buffers qui étaient d'un petit niveau qui commençaient à un peu casser les... Bon. Alors, on a monté cet orchestre sur un coup de tête comme ça, qu'on a appelé les Dumoustier Stompers. Le pauvre Claude Massimi n'y a joué que pendant un festival, puisqu'il est mort l'année d'après.
Ah oui.
Au moment où on l'attendait pour le festival suivant, on était prêt pratiquement parti pour la gare et sa femme nous a appelés.
Pour dire qu'il était mort.
Et donc, nous avons eu l'idée, parce que dans l'orchestre, se sont succédés au poste de clarinettiste Jean Poinceau, dit Joe Little Mez, élève de Milton Mezereau.
Ah oui, c'était vraiment l'élève, le disciple, de Mez Mezereau, hein, ça
alors,
c'est sûr.
Après lui, quand il a commencé à avoir marre de voyager, etc., il y a eu Alain Marquet, qui est le disciple français à la clarinette de Bechet.
De Bechet.
Meilleur clarinettiste français.
Donc les deux styles.
Les deux meilleurs en plus. Il n'y a pas de problème ce côté-là. Et on a eu l'idée, en revenant du festival de Bienne en 80. C'était quand ça? En 97. De les faire jouer en duo sur le répertoire Metz-Bechet. Et ça a donné un résultat absolument faramineux. Alors on distingue bien les deux, marqué côté Bechet et Poinceau et côté Mezereau. Un tout petit peu. Un petit peu mélancolique quelquefois dans sa manière de jouer. Alors on va passer deux morceaux, l'un après l'autre, Tommy's Blues et Old School, qui est un avatar de Revolutionary Blues. Et là vraiment, je dois
donc
dire...
un morceau lent, un morceau rapide.
Voilà, et ça c'était vraiment une très riche idée. Thank you.
Thank you.
Et voilà, pour, dans le premier morceau, il y avait juste les deux clarinettistes et un pianiste, qui était Jean-Claude Vartagnan. Dans le deuxième morceau, il y avait juste les deux clarinettistes et le guitariste Dominique Brigaud,
Dominique Brigaud,
le tubiste qui fait une partie fantastique, là, Gérard Gervois. Alors, je vous signale pour la petite histoire, maintenant, les retraites commencent à venir, mais à cette époque-là, Gérard Gervois était urbaniste en chef de la ville de Toulouse, Dominique Brigaud, ingénieur en chef de la ville de Paris, à la Voirie, Jean Poinceau, retraité, et Alain Marquet, PDG d'une boîte d'équipements médicaux. Voilà.
Oui. Donc, voilà, c'était des vrais amateurs.
C'était des vrais amateurs. Et évidemment, il y a des jours où les pros font un peu la narine, surtout quand c'est des intermittents qui ne sont pas de bon niveau, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je passe.
On ne va pas parler de ce sujet brûlant.
C'est le sujet qui fait. Alors, un peu plus tard...
On va retrouver Marquet.
Marquet a laissé sa place de clarinettiste à Jean-Pierre Rougeron, en 98. Mais Jean-Pierre, il ne joue pas de la clarinette, mais du saxo-soprano. Et tout à fait dans le style Béchet. Un peu à la manière de Massimi.
Alors, voilà. Moi qui connais le style de Jean-Pierre Rougeron, ça me frappe parce que c'est peut-être celui qui, dans sa sonorité, dans la rondeur de la sonorité, me rappelle le plus Béchette. Il n'a peut-être pas forcément la technique, même pas certainement pas la technique, naturellement, mais il a une sonorité, il a une simplicité dans le phrasé qui est un naturel qui, pour moi, évoque énormément Béchette.
D'ailleurs, il a attaqué le saxo sur avoir écouté un 45 tours de Béchette quand il était ado. Hein, c'est le coup de foudre intégral. Alors, quand on fait un CD, on demande à nos anciens de venir. On a toujours le contact avec eux. Malheureusement, Jean Poinceau a arrêté la clarinette un petit peu trop tôt pour cette séance qui date de 2004. Mais Alain Marquet est toujours actif. Et il est venu au studio et on en a profité pour faire un duo entre Jean-Pierre Rougeron au soprano et Marquet à la clarinette.
Et on retrouve...
Voilà. Alors, en l'honneur de notre ingénieur du son, on a appelé ça Papa Dipston, mais en réalité, le morceau s'appelle Willy the Weeper. Et ça déménage.
Thank you.
Et voilà, hein. C'est vrai qu'il chante, il a le saxo soprano qui chante comme celui de Bécher.
Ah oui.
Il est vraiment de la, très proche.
Et alors c'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui est jeune, enfin.
Ah, il est comme nous tous, il a 43, c'est la bonne année. Hein.
Mais il a. Il n'a jamais entendu, il n'a pas vécu à côté de Béchette. C'était quelqu'un qui a simplement entendu des disques. Et finalement, c'est une deuxième nature chez lui. Je crois qu'il est comme ça.
Mais oui, mais je pense aussi. Je pense aussi. Alors, il faut conclure, que, toujours, hélas. on va conclure avec la dernière en date des manifestations de l'après-Béchet. C'est un orchestre assez récent, je crois qu'il y a fait 2 ans qu'il existe, qui s'appelle Sidney Béchet Memorise. Alors, il est marrant cet orchestre parce que le pianiste Christian Hazy, qui jouait avec Claude Luther pour accompagner Béchet dans les années 50, c'est un grand octogénaire très, très solide.
Bon.
Le bassiste, c'est Totol Masselier, Alphonse dit Totol, qui était le bassiste d'André Réveillotti à la même époque. Lui, il est plutôt bon vivant, Rubicon, mais également octogénaire en excellent.
Peste, ça conserve le jazz. Hein.
la batterie, c'est Poumi Arnaud, qui était également sur ces coups-là à l'époque, qui organise le festival de Mégève.
C'est l'orchestre. L'orchestre des papilles.
Le coup. Et puis alors, il y a un jeune trombone qui s'appelle Benoît de Flaménil, qui s'est très bien fondu dans l'histoire. Et alors, les deux vedettes, c'est Alain Marquet, qu'on vient d'entendre là, avec les deux Moustiers Stompers, et à la clarinette, et le saxo-soprano, le descendant, le fils spirituel de Béchet, à travers son père, qui faisait ça avant lui, qui s'appelait René Franc, c'est Olivier Franc. Et le saxo-soprano d'Olivier Franc, c'est pas n'importe quel saxo-soprano.
Ah, mais est-ce que ça n'est pas le saxo-soprano, l'instrument même de Béchet?
Exactement, exactement.
Dont il joue.
Eh ben oui.
Ah oui.
Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé.
J'ai entendu dire ça.
Quand le fils de Béchet, qui est batteur, Daniel Sidney Béchet, a vendu aux enchères les affaires de son père, un mécène, il faut bien dire son nom, qui s'appelle Guy de Molle, un mécène,
oui.
Encore.
Oui, oui. Mais on en a déjà parlé.
On a parlé au début de la série d'émissions de Béchet, d'un fou de Béchet, Guy de Molle, et c'est un mécène. Et il a acheté aux enchères une somme
coquette,
le saxo-soprano de Béchet. Il a été voir Olivier Franc et il lui a dit, il est à vous en usufruit. Vous en savez tant que vous voulez.
C'est extraordinaire. Pour que la voix de ce saxo-soprano ne meure pas.
Et ben voilà. Alors, on va entendre deux petits orchestres. On va entendre. Alors, l'émission est un peu plus longue. Je préviens la régie tout de suite qu'il va falloir que nous n'arrêterons pas ce morceau avant la fin. Hein, ça s'appelle, c'est un morceau de Béchet très joli.
C'est trop beau.
Qui s'appelle Old Stack Holly Blues. Thank you.
La planète du jazz.
À la planète prochaine.